Il est 20h, vous écoutez Radio Alpa 107.3 FM Le Mans. Radio Alpa, tic-tac,
Adèle à la technique, Nicolas à l'animation. Chères auditrices, chers auditeurs, bonsoir. Après avoir attrapé ce satané Covid, quel plaisir de vous retrouver ce soir en direct sur Radio Alpa 107.3 FM pour une 8e émission du débat. Ce soir, nous débattrons du sujet suivant, l'Europe. Pour évoquer cette question avec moi, laissez-moi vous présenter mes invités. Stéphane Fouéré, ancien vice-président national de la FCPE, Fédération de parents d'élèves, et référent en Sarthe pour le mouvement politique gauche républicaine et socialiste. Bonsoir, monsieur Fouéré.
Bonsoir, Nicolas Besseau.
Dylan Bénaud, secrétaire fédéral du PS en Sarthe, délégué à la jeunesse et secrétaire de la section Haute-Sarthe du Parti socialiste. Bonsoir, monsieur Bénaud.
Bonsoir, Nicolas.
Pour commencer mon émission, comme d'habitude, un petit édito. Je voudrais commencer par un petit coup de gueule ce soir. Ce soir, notre émission, comme dit précédemment, évoquera l'Europe. Oui, l'Europe. Vous savez, ce petit bout de continent où nous vivons. En effet, je suis désespéré devant le peu de cas que font nos impétrantes et nos impétrants présidentiels sur ce sujet. Ce qui, ma foi, m'a donné envie de partager avec vous un débat et des constats sur l'Europe. Ce message passé, j'aimerais ajouter tout de même, allez faire les beaux au Parlement européen, n'est-ce pas monsieur Jadot, n'est-ce pas monsieur Mélenchon, en pleine campagne présidentielle. Utiliser le sujet de l'Europe, ma foi, me paraît un petit peu abusé. Cependant, dans un entretien du 14 décembre 1965, le général de Gaulle eut cette phrase restée célèbre. Bien entendu, on peut sauter sur sa chaise comme un cabri en disant l'Europe, 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 mais ça n'aboutit à rien et ça ne signifie rien. Je répète, il faut prendre les choses comme elles sont. Alors rassurez-vous, nous n'allons pas sauter comme des cabris pour crier dans les micros l'Europe, l'Europe, l'Europe. Cependant, si, comme l'affirme le général de Gaulle, comme l'a dit de Gaulle justement sur cette question de l'Europe, devons-nous faire des constats et poser des perspectives? Ce sera le sujet de notre émission ce soir avec nos invités où nous aborderons différents thèmes. Pour commencer, première question, messieurs, on va mettre les pieds dans le plat directement. La France doit-elle quitter l'Europe ou pas? Est-on à l'heure d'un Frenchxit? Monsieur Fouet ou Monsieur Bénaud pour intervenir? Monsieur Fouet, allez-y.
Non. On ne doit pas quitter l'Europe.
Pourquoi?
Il y a des réponses claires, donc on ne va pas tourner.
Pourquoi on ne doit pas quitter l'Europe, à votre avis?
Bah, parce que la France est une cheville ouvrière de l'Europe, enfin de tout le parcours qui est arrivé à l'Union européenne. C'est un pays fondateur. Alors, si on prend l'exemple par rapport à la Grande-Bretagne. Oui.
Oui, excusez-nous, les aléas du direct.
Si on prend l'exemple de la sortie de l'Union européenne de la Grande-Bretagne, la Grande-Bretagne a toujours eu culturellement un regard, de par sa culture anglo-saxonne, tourné vers l'outre-Atlantique. Donc elle n'a pas cette histoire. Je ne jette pas la pierre aux Anglais. Je pense qu'ils ont fait ils ont pris la mauvaise route. Ce qu'il faut, c'est au contraire repenser l'Union européenne telle qu'elle est, pour qu'il y ait plus de coopération. Je pense qu'on y reviendra.
Sur les coopérations renforcées, notamment. Oui.
Et puisque vous citiez De Gaulle, moi je vais citer juste, pour asseoir en fait la France, au sein de sa géographie, citer juste Napoléon. C'est pas souvent que je cite Napoléon, qui disait « un pays à la politique de sa géographie ».
On y reviendra sur les frontières, notamment dans le deuxième sujet. Monsieur Bénaud, on quitte l'Europe ou on reste dans l'Europe?
Alors évidemment, comme Monsieur Fouéré, je vais vous dire non. Non, on ne quitte pas l'Europe, même si en effet, on le voit bien que cette union, elle est imparfaite, elle est insuffisante, elle est insatisfaisante par rapport aux attendus qui étaient celles de tous les peuples d'Europe à sa création. On voit aussi qu'il y a une vision rigide de la concurrence libre et non faussée. Et ça, c'est en réalité la première des choses que chacun de nos citoyens voit. C'est ça et les politiques migratoires dans leur gestion. Et on le voit qu'ils sont assez inefficaces tout de même. Mais on aura l'occasion d'en reparler. Donc je vais pas.
Sur la question des frontières. Mais alors, du coup, on a compris votre opinion. Vous voulez rester dans l'Europe. Alors, du coup, c'est qu'il y a des choses positives dans l'Europe. Parce qu'on a l'habitude d'entendre tout le monde cogne sur l'Europe. Ça arrange les politiques. Ils se défaussent de certaines responsabilités. Donc, qu'est-ce que vous trouvez de positif aujourd'hui dans l'Union européenne? Qu'est-ce qui marche? Qu'est-ce qui fonctionne, monsieur Fouéret?
Ce qui fonctionne actuellement, c'est, comme vous disiez, hein, c'est moins tout ce qui a trait à la lourdeur des traités. C'est-à-dire qu'on est moins sur, je vais dire ce qui fonctionne un peu moins, on est moins sur une définition politique de l'Europe. Une définition, alors je le mets entre guillemets, oui, mais sur la démarche un peu trop bureaucratique, technocratique et administrative. Il faudrait plus de vision européenne pour construire des ponts, des passerelles et pas des murs. On parlait des migrations, etc. On y reviendra. Je pense que c'est un sujet à la fois polémique dans nos pays, mais aussi à l'échelle
monsieur
européenne.
Monsieur Bénaud, qu'est-ce qu'on trouve de bien dans l'Europe, selon vous?
Je voulais peut-être juste répondre à monsieur Fouéret. Si je peux juste reprendre un point. On dit que, donc, monsieur Fouéret a parlé tout à l'heure du Royaume-Uni. Il faut aussi sortir rentrer bien dans le contexte. Le Royaume-Uni ne faisait pas partie de la zone euro. En revanche, ce qui n'est pas notre cas, nous quitter la zone euro, ça serait la quitter avec toutes les, avec tous les risques que ça inclut. Donc ça, c'est déjà le premier point qui est très important. Le deuxième point, on le voit, c'est chez les extrêmes en France. Le Rassemblement National, par exemple, a toujours proposé la sortie de l'Union Européenne. Visiblement, il n'en est plus question aujourd'hui.
Exactement ce que j'allais vous dire. Donc, on voit que ça revient.
Même les extrêmes aujourd'hui commencent à donner raison sur le fait qu'on a besoin d'Europe dans notre pays. Les points positifs. Déjà, le premier point, il est majeur pour moi, c'est la plus belle réussite de l'Union Européenne, c'est Erasmus. Erasmus, c'est quand même, on ne peut pas se le cacher, une réussite en termes de coopération, en termes d'échanges culturels. Et ça rejoint finalement ce dont a besoin l'Europe pour réussir, c'est-à-dire qu'il y ait un sentiment d'appartenance aujourd'hui qu'on ne voit pas assez. Alors oui, il y a ces problèmes bureaucratiques, ça on va pas se le cacher. Il y a aussi le fait est que aujourd'hui on ne sait pas vraiment ce qui se fait au Parlement européen, c'est très peu médiatisé, c'est très peu de temps d'antenne. On a aussi des députés européens qui sont éloignés du terrain. Avant c'était d'ailleurs une élection qui se faisait donc à la proportionnelle par région, maintenant on est sur des listes nationales. On le voit bien en région Pays de Loire, on doit avoir peut-être un député européen mais on n'a même pas
c'est
son nom,
donc c'est invisible
pour nous en tant que politique, ça l'est encore plus pour nos citoyens. Sinon, par contre, ce que fait bien aussi l'Union européenne, il faut pas le négliger, les régions. Les régions, elles bénéficient des dotations de l'Union européenne.
Les dotations fédérales,
notamment.
Et on
a énormément de projets, que ce soit des projets associatifs ou des projets pour nos communes, pour la région, qui sont financés aussi grâce à des budgets de l'Union européenne.
Monsieur Fouret, vous voulez rebondir?
Je rebondis positivement sur Erasmus. Alors, c'est pas parce que j'ai un parcours aussi de parents, d'élèves aussi engagés sur ces questions-là. Erasmus, oui. Mais je pense qu'il faut permettre à tous les... Alors, pas seulement étudiants, mais à tous les jeunes en situation d'études, soit au secondaire ou au supérieur, d'y avoir accès. La question actuellement, c'est que c'est perçu comme quelque chose d'assez élitiste. Hein, donc, il faut vraiment tendre vers l'égalité d'accès aussi à ces questions d'Erasmus et permettre, et c'est dans le sens où je disais, il faut construire des ponts, des passerelles, des rencontres avec les autres peuples, les autres cultures. Et Erasmus peut aussi permettre ces rencontres. Et je pense qu'il faut démocratiser aussi des dispositifs positifs comme ça.
Je tiens à préciser, alors Erasmus est pour les étudiants, mais il y a aussi un dispositif qui existe pour les étudiants apprentis. Alors ça s'appelait Leonardo à l'époque, mais ça a peut-être changé de nom maintenant. Mais me semble-t-il, enfin, les possibilités de pouvoir faire des séjours à l'étranger dans le cadre de ces études, si des étudiantes et des étudiants nous écoutent, qui sont au lycée, qui préparent une alternance en apprentissage, sachez qu'il y a des dispositifs qui existent, notamment le dispositif Leonardo.
Après,
et il y a une maison de l'Europe, au moins, on va en profiter aussi pour faire un peu d'infos sur l'Europe. Parce que vous parliez des médias tout à l'heure, monsieur Bénaud. Je tiens à vous assurer que ça a été une panacée pour monter cette émission. Je citerai pas. Et en plus, quand on voit dans les médias nationaux, mais l'Europe est complètement absente.
On a deux émissions, d'ailleurs, c'est pour... pour citer vos confrères, il y a une émission sur France Info, c'est la faute à l'Europe, et puis il y a une émission sur LCP, la chaîne parlementaire, où pareil, il y a une heure d'antenne à peu près chaque jour sur l'Europe.
Donc, avec tout le respect que j'ai pour LCP et pour France Info, une émission de niche qui est regardée par 10 000 personnes.
En revanche, j'irai pas jusqu'à dire que c'est que Erasmus est élitiste. Moi, j'irai pas jusque là. Au contraire, elle est accessible à tout le monde. Par contre, ce que j'entends, c'est qu'elle pourrait être, ça pourrait être accessible à un plus grand nombre. Et on pourrait l'étendre en effet à d'autres formations, peut-être à des plus jeunes, peut-être à des personnes qui sont aussi sorties du domaine scolaire et qui pourraient continuer. Pourquoi pas aller se former à l'étranger, ça fait partie des programmes.
Vous avez les systèmes de volontariat, mais la question qu'on pourrait se poser éventuellement sur un truc qui serait positif, notamment au niveau de l'Europe, et pour donner envie d'Europe, entre guillemets, est-ce que ça devrait pas être un droit pour un jeune de 18 ans d'avoir un financement complet, garanti, pour pouvoir justement construire ces ponts que vous décriviez ?
Ça pose la question, et on en parlait, ça remontait dans les années 90, la fameuse citoyenneté européenne.
Oui, on y reviendra justement sur la question de la souveraineté, la démocratie.
Le passeport européen, etc. Quoi. Où ça en est ? Enfin, c'est une vraie question aussi, sur des questions qui peuvent nous rassembler au-delà des institutions européennes qui parfois bloquent.
Autre aspect positif, peut-être que vous pourriez trouver la mutualisation de la dette lors de la crise du Covid, ou peut-être aussi sur les traités. Enfin, est-ce qu'il y a des choses positives dans les traités ou sur les... Sur la mutualisation de la dette, sur le projet économique, est-ce qu'il y a des choses qui vous paraissent positives ou négatives, peut-être ?
Sur la mutualisation des dettes, en effet, vu comme ça, on pourrait se dire que c'est une super idée et que ça paraît très simple, mais en réalité, ça ne l'est pas. Ça ne l'est pas parce que déjà, dans un premier temps, parce qu'on nous compare souvent à la Fed, aux Américains, il faut savoir que la BCE, elle est totalement indépendante. Ce qui fait que ce ne sont pas les États qui décident. Donc, déjà, dans le mode de fonctionnement, on fonctionne pas de la même manière. D'ailleurs, les États-Unis, c'est 10 fois la dette de l'Union européenne. Quand même, il faut le rappeler. La mutualisation des dettes, évidemment. Donc moi, je suis pas favorable parce qu'en plus, on le voit bien, on est touché par l'inflation actuellement. Et donc demain, il y a un risque encore plus grand d'inflation. C'est ce qui s'est passé aussi en Argentine. Plus on crée de monnaie, plus on fait fonctionner la planche à billets, puis à la fin, on se retrouve sur la banqueroute. En revanche, la dette, il faudra la payer, ça c'est certain. Mais ce qu'il faut revoir, c'est donc notamment sur les traités, la règle des 3%. Ça, clairement, aujourd'hui, je pense que c'est une règle qui est obsolète, qui n'est plus adaptée à la situation actuelle, qu'il faut peut-être hausser à 5%. Mais alors, 5%, pourquoi ? C'est aussi une question qu'on peut se poser. Mais y rajouter, par exemple, des critères environnementaux sur les investissements écologiques dans chaque pays, parce qu'on voit aussi que l'Europe est à la traîne sur ce sujet-là, malgré les efforts qui sont menés par un certain nombre de pays.
Sur la question de la dette européenne. Alors, il faut préciser aux auditeurs, comme vous le précisez, Monsieur Benoît, l'Europe en elle-même, en tant qu'institution, n'a pas de dette, en fait. On additionne les dettes nationales, et là, je pense qu'on est au niveau des États-Unis. Monsieur Fouret, éventuellement, sur les traités, peut-être
Sur les traités, le souci, c'est que l'Europe n'a pas pris sa place pour investir. Elle est trop, en tant que telle. Ce qu'on conteste, c'est qu'une Europe qui est de moins en moins, en tout cas l'Union européenne, est de moins en moins européenne. Là, ce qu'on met en avant, c'est le multilatéralisme. C'est-à-dire qu'on est encore à la remorque des États-Unis, de la Russie, la Chine. Est-ce qu'on ne peut pas trouver une place en tant que telle de cette construction européenne de... Alors, c'est pas un gros mot que je vais employer, mais d'une souveraineté, entre guillemets, européenne en tant que telle.
C'est très bien, vous nous avez un peu anticipé les deux autres thèmes qu'on abordera sur la question de la souveraineté et sur la question de la stratégie européenne en matière de défense et de sécurité.
Je rebondirai juste, vous avez cité la Banque Centrale Européenne, il y a la Cour Européenne de Justice également, qui dont les parlements nationaux n'ont pas droit de regard. Nous, ce qu'on mettrait en avant aussi, c'est vraiment une consultation des parlements nationaux sur des décisions émanant de la Banque Centrale Européenne, la Cour Européenne de Justice, de manière à aussi asseoir et de renverser la hiérarchie des normes, c'est-à-dire mettre en avant nos parlements nationaux et pas la suprématie...
Ça va être imbitable à 13 pays. Enfin, 13 parlements peuvent avoir des décisions en termes financiers différentes.
Est-ce que c'est pas tendre à ce que vous mettiez à une démocratie aussi européenne ?
Ça impacte
nos pays, nos États.
Après, aujourd'hui, je pense qu'il faut se rendre compte d'une chose. On en parlera peut-être de l'élargissement. Il est très difficile d'avoir une Union européenne à 27 pour débattre aujourd'hui, tellement qu'entre certains pays, notamment entre les opposés, on voit qu'il y a des difficultés à communiquer. Il y a des difficultés aussi avec les pays. Moi, je vais prendre notamment l'exemple du plan de relance. Hein. On l'a vu, où les frugaux, donc notamment les Pays-Bas, l'Autriche, sur le plan de relance, on finit donc par accepter ce plan à condition d'avoir un rabais sur leur contribution. Donc là aujourd'hui c'est pareil. Là c'est pareil. Donc un certain nombre de pays et pas forcément. Donc là pour le coup nous on est dedans. On va aller payer pour des pays qui sont pas forcément les plus en difficulté dans cette Union européenne. Donc là aussi c'est un vrai sujet. Surtout que c'est ces mêmes pays qui nous permettent pas d'avancer notamment dans la lutte contre la fraude fiscale, contre la lutte contre les errements des multinationales qui refusent de payer l'impôt là où l'argent est finalement fait. C'est ces pays-là qui refusent des investissements plus grands dans le domaine écologique. Donc
on peut les citer, les pays, hein, Pologne, Hongrie.
Et on a ces pays de l'Est, mais c'est pas ils en font partie, ouais. Tout à fait. Mais il va falloir à un moment donné, pour que cette Europe elle fonctionne, qu'il y ait une Europe des coopérations, que chacun et chacune travaille ensemble. Alors si on n'est pas capable de se mettre d'accord à 27, et ben donc on aura une Europe à deux vitesses, mais il faudra avancer par groupement de pays.
En tout cas, on va être d'accord. Je vous rejoins complètement. Je pense qu'il ne faut pas élargir pour élargir, même si actuellement, je pense qu'il y a des négociations au niveau de la Serbie, Monténégro, etc.
Sur l'élargissement Turquie. Même.
Mais ça impacte aussi leur système institutionnel, hein, parce qu'il y a ça aussi. Quand on rentre dans l'Europe, il y a peut-être aussi à voir au niveau des institutions. Moi, je suis complètement d'accord avec vous. Je pense qu'il faut relancer, et là, c'est un petit peu à la traîne, la fameuse coopération euro-méditerranéenne avec le projet euro-méditerranéen sur les trois pays du Maghreb. Mmh. Il y a d'autres projets comme ça, mais c'est des projets de coopération politique, économique,
pas d'élargissement, on est d'accord,
culturel.
Des projets de coopération.
Non, mais parce que l'Europe, c'est aussi, heureusement, de la coopération. Mmh. C'est pas tous en intégration dans l'intégration de l'Union européenne, heureusement. C'est de la coopération, c'est du concret, de la coopération.
Donc, on aura bien compris que la France ne sort pas de l'Europe pour nos invités. Je vous avoue, je suis plutôt sur cette ligne. On va passer au deuxième sujet de l'émission. Comme on peut le constater aujourd'hui, l'Europe est au bord d'une guerre. Elle n'a plus connu ça depuis 1945 en Ukraine, suite aux pressions de Monsieur Poutine. Donc, on va évoquer la question de la sécurité, défense, diplomatie, frontières. Quelle stratégie pour l'Europe ? Messieurs, sur le conflit ukrainien, est-ce qu'on n'est pas en train de payer une espèce de politique en avant ? Et vous parliez de l'élargissement tout à l'heure. Est-ce que rétroactivement, l'élargissement, ça n'a pas été une faute ?
J'irai pas jusque-là. Le conflit est bien plus compliqué que ça pour être réduire d'ailleurs à cette question de l'élargissement.
Faut lier à l'OTAN, bien entendu.
Évidemment. Et puis c'est surtout que c'est un problème qui date. Les médias en ont moins parlé, mais la guerre en Ukraine, elle a perduré depuis
2014.
Ce d'ailleurs, il faut pas oublier qu'à l'époque, c'était François Hollande, le président de la République, et qu'il a, comme l'Europe l'a rarement fait, d'ailleurs, géré la situation d'une manière quand même importante.
Collective,
où il a réussi à rapprocher quand même le président ukrainien et le président russe pour justement régler une partie de ce problème, et en coopération avec Angela Merkel également, qu'il ne faut pas oublier. Mais le problème va au-delà de ça. Après, évidemment, ce sont des pays qui sont des pays voisins, donc on ne peut pas ignorer ce qui se fait aux portes de l'Union européenne, ça c'est une certitude.
C'est ce que j'évoquais précédemment. Je pense que face à ces crises, à ces conflits, conflits armés souvent, je pense que l'Europe doit redonner de la voix et se construire. Ouais. À égalité, je parlais du multilatéralisme, ouais. Je pense à égalité des USA, de la Russie, de la Chine, et aussi travailler dans ces déséquilibres nord-sud. Je pense qu'elle a sa place aussi.
Donc ça peut être un peu le rôle, la voix de l'Europe, d'essayer de construire les ponts entre les différentes... Ouais. Nations qui ont une force armée. Mais moi, la question vraiment auquel il faudrait qu'on réponde, parce qu'on parlait de l'OTAN, justement, et cet élargissement à l'Europe de l'Est, suite à la chute de la Russie communiste, on a élargi l'Europe avec, en même temps, adhésion à l'OTAN automatique. Est-ce que finalement, l'Europe ne doit pas avoir sa propre politique de défense et sortir de l'OTAN? C'est une question que je pose,
non,
c'est pas une affirmation.
On sort du commandement armé de l'OTAN. L'OTAN, il n'y a pas que ça. Le commandement.
Le commandement intégré, effectivement. On va rentrer un petit peu technique pour nos auditeurs, oui, nos auditeurs, mais vous avez raison, M. Fouet.
C'est pas l'OTAN pour l'OTAN.
Qui a été réintégré sous Sarkozy pour la France, en tout cas.
Moi, je pars du principe, c'est une méthode. Il y a de l'existant. On va pas balayer d'un revers de main. Je pense qu'il faut retravailler, peut-être de manière critique, refonder les structures. C'est comme l'Europe. On dit, voilà, on sort comme ça d'un revers de main. Non, je veux dire, il y a toute une histoire. Il y a des pères fondateurs, il y a toute une construction. L'Europe, c'est pas par hasard, elle est née quand même à la fin de la guerre, d'un conflit. C'était aussi pour essayer d'amener la paix, et je pense qu'elle a son rôle.
Ce qui a été une vraie réussite, on parlait des réussites
tout à l'heure, l'Union européenne,
effectivement, c'est une vraie réussite. Pardon. Enfin, on le cite souvent, mais on l'oublie aussi que la paix, c'est pas acquis. Monsieur Bénaud.
Nous parler de l'Europe de la défense, ça nous ramène au sujet principal qui est la souveraineté européenne, que vous avez d'ailleurs évoqué, monsieur Fleury, tout à l'heure, en parlant d'une Europe souveraine. Moi, évidemment, donc sur l'Europe de la défense, il faut bien dissocier deux choses. Il y a l'Europe de la défense où on coopère, et on accepte de travailler ensemble, quoi qu'il en coûte, pour reprendre les mots du président de la République, sur les sujets de défense. Ou alors, il y a cette... donc là, c'est plutôt sur ce sujet-là que je me tournerai. Ou alors, il y a cette Europe de la défense où le souhait de certains, c'est de mutualiser l'ensemble des forces armées et de nos moyens. Et là, attention, avec les risques que ça implique, et ça, moi, j'y suis pas du tout favorable. Il faut quand même garder chacun et chacune aussi une part de souveraineté nationale, et notamment sur les sujets de défense. Je pense que la France doit garder sa part. Mais évidemment, sur le fait qu'on doit travailler davantage ensemble, qu'on doit, parce qu'on l'a vu, dès qu'il y a une intervention, par exemple, ça a été le cas au Mali sous François Hollande, c'est le cas, la question s'est posée en Afghanistan, l'Union européenne n'avance pas ensemble, et c'est encore pays par pays, où certains s'y jettent, d'autres restent où ils sont. Donc il faut qu'on ait en réalité, je pense qu'on est d'accord, une politique de défense qui soit commune. Mais par contre, en termes de moyens, on ne peut pas laisser les pays gérer.
Donc, on définit des objectifs communs, mais on garde chacun nos soldats, nos matériaux. Bien sûr. Donc, il faudrait pas. Donc, allez-y, Monsieur Fouera, après j'ai une question.
Oui, moi, je suis d'accord. Ce qui manque, c'est une vision politique.
Une vision politique.
Une politique, une diplomatie.
Mais on a quand même un commissaire aujourd'hui qui est numéro 2 aujourd'hui.
Des commissaires surtout. Et au final, où il se passe pas grand chose. Il faut quand même pas se le cacher. Les commissaires au commerce, on l'a vu, ça n'a pas empêché d'avoir des traités, donc tels que le CETA, le Mercosur, où finalement, les commissaires, à la fin, n'ont pas su défendre les intérêts de l'Europe.
Sur les conflits, pourquoi? Alors, c'est une proposition. Pourquoi? Justement pour lutter contre cet alignement atlantiste, pourquoi on ne construirait pas un corps européen?
Alors, il y a déjà une force d'intervention rapide. Ah, une force de paix, d'accord.
Une force de paix. D'accord. Avec, comme il y a les casques bleus à l'ONU, et bien des casques bleus avec les petites étoiles de l'Union européenne.
Pour vous, ça peut être un des rôles et une des visions
pourquoi
que peut porter l'Europe.
On n'irait pas
des casques
en
bleus
avant sur ces questions-là, quoi. Je veux dire, elle est aphone. Mais on n'entend pas l'Europe là-dessus.
Je suis totalement d'accord avec vous, monsieur Ferré. Mais dans l'absolu, parce que si on veut avoir une politique de défense, comme vous l'expliquez, monsieur Bénaud, est-ce qu'il ne faut pas aussi une stratégie industrielle et notamment une interopérabilité des matériaux? On voit par exemple en Europe de l'Est, la Pologne, qui dépend du parapluie américain, ils achètent du matériel américain. C'est quoi la logique? Est-ce qu'il faudrait pas, en termes, encore une fois, peut-être dans des coopérations renforcées, permettre, mais est-ce qu'il faudrait pas des champions industriels de l'arme? Je sais, je vais faire hurler des gens qui vont dire qu'il faut vendre des armes, mais malheureusement, on est dans un monde qui est pas toujours
jour. Si je vous disais le contraire, ça serait incohérent. On est les champions dans ce domaine. On est d'ailleurs les plus, enfin, on est quand même assez à la pointe sur ces sujets-là. Évidemment, il doit y avoir une politique européenne, comme ça se fait d'ailleurs aux États-Unis. On doit avoir un Buy European Act comme on a un American Buy Act aux États-Unis. Ça, c'est une certitude. Pour terminer, en revanche, quand tout à l'heure je disais que je n'étais pas favorable à la mutualisation, notamment de nos moyens, en tout bien tout honneur, ça signifierait aller même au-delà en proposant finalement de partager notre siège à l'ONU. Ça irait aussi donc sur le nucléaire, parce qu'on est quand même une force de dissuasion nucléaire. C'est aussi pour ça que c'est pas possible de mutualiser nos moyens avec l'ensemble de l'Union européenne. Il faut pas oublier aussi que l'Allemagne n'a pas autant de moyens que nous sur les sujets de défense. Donc ça, c'est lié à l'histoire évidemment. Donc il faut rester dans un contexte où en effet il doit y avoir une stratégie, on doit penser, on doit parler d'une seule voix. C'est ça qui est très important. La crédibilité de l'Europe, elle passera par ça. C'est si on parle d'une seule voix. Pour le reste, après, il faut avancer petit à petit, ne pas griller les étapes, parce que ce serait une grave erreur.
Alors, on a évoqué le sujet de la défense, vous avez évoqué le Mali, sur la question de la sécurité, du terrorisme. Mais qu'est-ce que l'Union européenne peut faire? Alors, on est d'accord qu'il y a des compétences propres à chaque pays, hein, chaque pays a ses, enfin, au niveau des échelons, l'Europe n'a pas la compétence pour la sécurité, mais est-ce notamment Frontex, les frontières, et comment on fait? Est-ce qu'on met des moyens ou est-ce qu'on revient à une gestion nationale des frontières? Votre opinion, Monsieur Fouéré?
C'est complexe, ces interventions. Voilà, je ne vais pas lancer le débat sur les interventions dans... Alors, la France est visée, mais quand je dis complexe, c'est parce qu'il y a une histoire derrière.
Hein, oui, mais regardez, par exemple, au Mali. Au Mali, en fait, c'est les Français. Et les Français ont payé le prix du sang pour l'Union européenne. Tout je suis désolé. Enfin, donc il y a
même,
un moment.
Même
y a
pour,
un
vous pouvez moment, le dire pour le monde, pour peut. Le monde, parce que les Américains se sont pas beaucoup mouillés non plus au Mali.
Enfin, nous aussi, on va s'en aller dans 15 jours, mais ça c'est autre chose, ça se rediscute. Mais enfin, est-ce que là, sur le terrorisme, est-ce qu'il peut y avoir une réponse coordonnée? Est-ce qu'il peut y avoir des moyens mis en œuvre? Est-ce qu'il ne faut pas réfléchir justement à sortir de cette souveraineté nationale pour avoir une souveraineté européenne en matière de défense? Je pose la question encore
bien
une fois.
C'est peut-être l'outil que je proposais, enfin que nous proposons, oui, même avec d'autres, oui, voilà, à mettre en place. Je pense qu'il faut, si on veut rapprocher, alors lutter contre le terrorisme, c'est faire confiance aussi et aider les pays à aussi se structurer.
Les projets de développement que l'Union européenne
pourrait
donner.
Oui, et puis peut-être aussi face à l'Union européenne qui se consoliderait, peut-être aussi à aider aussi le continent africain. On parlait des États-Unis d'Afrique, etc. Mais à se structurer, ouais. Je pense que l'Europe.
Parce que c'est
dans
le
cette
rôle des Européens, on a quand même le colonialisme derrière. Enfin, c'est un sujet compliqué. Dire les Européens, on arrive, on va vous proposer un modèle. Une dernière intervention, oui, monsieur Benoît. Alors, 30 secondes, monsieur Fouad.
Kadhafi n'avait pas attendu l'Europe pour proposer ça.
Non, effectivement.
Moyen-Orient, Proche-Orient, en Afrique.
Tout à fait. Monsieur Benoît.
Sur le sujet de façon générale, donc du coup, j'ai compris qu'il y avait 30 secondes, je vais faire rapidement.
Ouais, merci.
Sur l'immigration, il y a une chose, en effet, qui est assez gravissime, c'est que les moyens de Frontex ne sont pas à la hauteur des attentes. Et aujourd'hui, on le voit avec les différentes guerres, les demandes d'asile qui arrivent en nombre. Donc, il faut augmenter. Du coup, selon moi, le budget de Frontex. Et en effet, il faut aboutir à une réforme complète du système de Dublin. Ça, pour moi, c'est une certitude. Sur les coopérations, en effet, il faut qu'on coopère davantage pour investir d'ailleurs dans le développement du continent, notamment africain, Proche-Orient. Mais on ne peut pas leur imposer un système à un moment donné. C'est, on l'a vu partout où on a essayé de le faire, ça n'a pas fonctionné. Aujourd'hui, que se passe-t-il en Libye? Il n'y a pas de système. L'Algérie est toujours en train de se poser la question de son propre système. On le voit aussi dans les pays du printemps arabe. Ça mûrit, mais on n'y est pas encore. On va pas aller l'Irak, on va pas aller imposer au Mali un système démocratique. Je veux dire, c'est pas le rôle de l'Europe. L'Europe, elle a un rôle, elle est là pour aider au développement. Mmh. Elle est là pour être présente, en effet, quand il y a des conflits armés, parce qu'on en est les premiers touchés, finalement. Elle est là aussi, par exemple, sur la crise sanitaire. Elle doit être capable d'agir pour permettre la vaccination sur tout le continent européen, parce que c'est le monde entier qui en dépend.
Alors, elle doit sur la santé. Elle doit être capable d'agir, mais elle doit aussi contribuer à lever les brevets aussi.
Bien sûr.
Sur les vaccins, c'est une vraie question.
Oui, tout à fait.
D'ailleurs, permettre à la population d'avoir au maximum
d'accès. Et d'ailleurs, je pense que c'est un des points de convergence que toute la gauche en France peut avoir.
Pour une fois qu'il y en a un.
Il faut le rappeler quand il y en a quand même.
À condition de le dire et le dire ensemble.
Tout à fait.
On va passer à notre première pause musicale. Cependant, juste. Il me semble que l'Union européenne aurait les moyens qu'on n'ait pas des gens qui meurent en Méditerranée pour traverser un continent. Première pause musicale, l'hymne à l'Europe. C'est une émission sur l'Europe.
107.3 FM Le Mans.
Radio Alpa.
Radio Alpa.
L'alternative.
De retour à l'antenne après ce magnifique morceau de l'hymne à l'Europe de Beethoven. Troisième sujet de l'émission, on va évoquer la démocratie et la souveraineté en Europe. Comment on fait en 2022? Alors, on a un petit peu abordé le sujet tout à l'heure, moi je vais mettre les pieds directement dans le plat. Est-ce qu'on peut parler aujourd'hui d'une souveraineté européenne? Et est-ce qu'on peut même envisager une nation européenne? Monsieur Benoît, peut-être que vous...
Comme je l'ai redit tout à l'heure, la souveraineté européenne, on y viendra quand on aura ce sentiment d'appartenance. Donc il faut déjà se donner les moyens et les outils pour réussir à faire sentir finalement aux Françaises et aux Français et à tout, parce qu'il y a des pays qui se sentent purement européens, attention, hein, mais qu'ils sont aussi européens. Pour ce qui est d'une nation européenne, je n'irai pas jusque-là. On a quand même chacun et chacune notre histoire, notre culture qui quand même, si nous arrivons à coopérer, est commune, ça je l'enlève pas, mais qui fait partie de notre histoire et de la spécificité de l'Union européenne, et c'est aussi une force, parce que si nous étions tous pareils, alors on ne parlerait plus d'Union.
Monsieur Fouéré.
Ce qu'on met en avant, c'est un prérequis, c'est-à-dire que
l'Europe... Bien, la gauche républicaine et socialiste, c'est
oui,
ça.
Oui, mais pas que, je pense. Oui, voilà, c'est une Europe au service des citoyens, mais qui respecte aussi l'histoire. Des États, leur démocratie, leurs institutions, etc. Donc c'est un prérequis. C'est-à-dire qu'on ne peut pas, je suis d'accord, à uniformiser une Europe. Voilà. Dans un film, l'Europe, etc. Enfin, c'est pas une chose, quoi. Ça s'est construit par des États-nations.
Mais monsieur Fouet et monsieur Benoît, une histoire, ça se construit. Est-ce qu'on n'est pas en train de la construire, cette histoire, justement? Regardez, enfin, moi, c'est souvent un exemple que je prends. La nation française, on part de, 987, UCAPÉ jusqu'à Valmy, on a mis à peu près 800 ans pour construire cette nation française. Quand on voit l'état d'avancement, qui est certes imparfait, de l'Union européenne, en 70 ans, on a quand même mis en place des choses qui font peut-être accélérer le sens de l'histoire. Et est-ce que c'est pas le sens de l'histoire d'aller vers cette nation européenne qu'on est en train de construire par des valeurs communes, une histoire qui est en train de se faire? Est-ce que à terme, c'est pas ça qui va se passer?
Nation européenne, je ne pense pas, mais par contre, comme on parle d'intérêt général en France, pourquoi on parlerait pas d'intérêt général?
Alors, en langage juridique, au niveau européen, on appelle ça un service d'intérêt économique général.
Oui.
C'est pas la même chose.
Technique, hein.
Bah oui, on va éviter pour nos auditeurs.
On essaye de donner une vision politique aussi et diplomatique, donc c'est un petit peu décalé, quoi.
Et qu'est-ce qui cette souveraineté européenne, est-ce qu'elle peut exister ou est-ce qu'elle existe déjà ou qu'est-ce qu'il faudrait faire pour y arriver? Dans quelle matière on devrait être souverain surtout? Qu'est-ce qu'on devrait donner comme compétence à l'Europe pour être souverain, entre guillemets?
On a une part de souveraineté européenne, il ne faut pas le nier quand même, elle existe tout de même, notamment en matière économique, hein, celles et ceux qui font partie de la zone euro, c'est une souveraineté. Aujourd'hui, on n'est plus libre de faire non plus tout ce que l'on souhaite avec la monnaie. Il y a une souveraineté européenne, mais qui malheureusement, pour moi, n'est pas au point, n'est pas défendue, il n'y a aucune stratégie, c'est sur la partie commerce. Il y a une souveraineté européenne, parce que maintenant, aujourd'hui, les politiques agricoles, dont d'ailleurs la PAC n'a plus de commun que le nom, parce qu'on l'a vu, il y a eu quand même 270 milliards d'euros de budget qui ont été votés donc jusqu'en 2027 par l'Union européenne, votés par tous les groupes, du RN en passant par la République en marche et les Républicains, où au final on se rend compte qu'il n'y a aucune stratégie, il n'y a aucune allusion même à l'environnement sur le plan qui est prévu jusqu'en 2027. Et d'ailleurs, la distribution des dotations ne se fait qu'à l'hectare. On n'a pas changé aussi le mode de fonctionnement de la PAC, donc il ne faut pas s'étonner aussi qu'il y ait des réticences et le fait aussi qu'on n'arrive pas à développer l'agriculture et l'agroécologie, parce que j'aime pas parler de bio, mais je préfère parler d'agroécologie en Europe. Les sujets sur lesquels l'Europe elle doit devenir souveraine, je veux dire, l'écologie au sein de l'Union européenne me paraît d'être le meilleur degré aujourd'hui. L'Union européenne doit s'emparer du sujet écologique et réussir, et il n'y a que comme ça qu'on y arrivera. La recherche... Aujourd'hui, il serait quand même dommage qu'on se cantonne à n'investir dans la recherche qu'au sein d'un pays. On est 27, on sera quand même plus fort ensemble à 27 pour développer la recherche en Europe et être des pionniers dans le monde et des exemples. Hein, sur la stratégie, je leur dis commerciale, il faut qu'on arrive aujourd'hui à faire entendre notre voix, à imposer que l'Union européenne est un partenaire qui lui aussi est capable de prendre ses décisions. Quand on voit que les Chinois, les Américains viennent investir en Europe comme ils le souhaitent, mais quand à l'inverse, c'est nous qui allons, il y a sur les secteurs stratégiques, des choses qui nous sont imposées, qui nous empêchent d'ailleurs, dans des sociétés chinoises, de posséder plus de 49% de la société parce que c'est un secteur stratégique. Mmh. Il faut qu'on soit capable de défendre nos intérêts. Et enfin, je terminerai juste sur une souveraineté numérique. Sur le numérique, il va être grand temps que l'Union européenne s'empare du sujet et soit capable d'avoir son propre modèle et de concurrencer aujourd'hui les Américains, la Chine. Et ça, c'est un enjeu, parce que on le dit aujourd'hui, là, certains disent même que la prochaine guerre, c'est une guerre numérique, guerre. Il va falloir que l'Union européenne investisse massivement dans ça.
Monsieur Fouéré, enfin, vous êtes en rapport avec les propos de Monsieur Bello, peut-être?
Je rebondis avec l'actualité sur la crise du Covid, la pandémie. Je pense qu'effectivement, l'Europe aurait pu trouver sa place dans un investissement de la recherche sur les vaccins, etc. Quoi. Ouais. On n'a pas été capable d'investir dans cette recherche et de produire à tel point que l'Europe est devenue marchande. C'est-à-dire que voilà, on a acheté, on a dépensé plutôt qu'investi. Ouais. Je pense que sur la question des services publics, donc éducation, santé, etc. Je pense que là, on peut tirer vers le haut. On peut tirer un fil vers le haut sur ces questions-là. Alors, il y a l'exemple aussi en France, mais je pense qu'on peut, à partir de ce qui est peut-être positif dans tel ou tel pays, alors je ne mets pas que la France en avant, mais je pense qu'on peut faire, entre guillemets, une jurisprudence européenne sur telle ou telle construction qui ont réussi dans tel État, et en faire une politique européenne. Ouais, c'est ça, je pense qu'on peut...
Un principe d'expérimentation qui pourrait être mené. Mais on en revient toujours, c'est le mode de décision, en fait. Et là, on revient aussi, finalement, à la souveraineté, à la démocratie. Je suis désolé de recentrer un peu le débat. Mais le mode de fonctionnement des prises de décision, aujourd'hui, à l'unanimité, en matière fiscale, en matière économique, sur plein d'autres sujets, est-ce que ça peut fonctionner ou pas? Enfin, on voit bien que ça fonctionne. Enfin, je donne mon avis. Est-ce que vous trouvez que le système de mode de décision est adapté aujourd'hui à 27?
Il y a trois points très importants. Il y a le premier, en effet, c'est le point de vue démocratique. On sent qu'il y a un Parlement aujourd'hui qui n'a pas la main sur tout, où ça se décide entre chefs d'État. Donc ça, c'est la première des choses. Nous n'avons pas un président de l'Union européenne. Ça, c'est la deuxième chose, c'est très important. Parce qu'aujourd'hui, ça veut bien dire que même si on a une présidente du Parlement, on n'a pas quelqu'un qui, au-dessus, est capable de parler pour 27 pays. Donc ça, c'est très important. Il y a aussi le fait que on n'ait pas de vote à l'unanimité de possible, qu'il y ait des blocages, qu'il y ait des droits de veto, ce qui nous empêche d'avancer sur un certain nombre de sujets. Donc cette Europe, en effet, démocratique, il va falloir la revoir. Et puis c'est surtout que ça passera par des coopérations aussi. Et ça se décidera à 27, malheureusement, on ne pourra pas faire autrement. Le deuxième point sur lequel je voulais venir, c'est sur le fait que l'Union européenne, et ça c'est une spécificité, n'a pas de budget propre. Ouais. Ce sont des contributions d'État. Et donc il va être grand temps que l'Union européenne se décide d'avoir un budget financé par une coopération européenne, notamment en matière fiscale. L'harmonisation fiscale, ça c'est très important.
J'avais le même mot.
Pour le futur, c'est ce qui contribuera à une Europe souveraine et à écrire l'histoire, parce qu'aujourd'hui, oui, l'Europe a son histoire, mais elle n'est pas ancrée, elle n'est pas marquée dans la tête de l'ensemble de nos concitoyens. Et je pense que c'est par ce genre de choses qu'on arrivera aussi à avoir l'appartenance. C'est quand on fait les choses ensemble que ça fonctionne.
Donc, en gros, il nous reste 1 minute 30 sur ce sujet. Donc, Monsieur Fouéry, une dernière intervention.
Pour un peu plus de démocratie et de souveraineté en Europe, je pense qu'il faut instaurer un mandat du Parlement français avant chaque Conseil européen. C'est ce que je disais au départ.
Donner un mandat, alors attention qu'on soit clair, un mandat impératif.
C'est-à-dire supposer une loi organique qui va régir les relations des deux chambres parlementaires pour donner un avis circonstancé. Par rapport aux décisions européennes. Je pense qu'il y a un droit de regard préalable.
Oui, pour essayer d'articuler justement cette souveraineté nationale avec un système démocratique qui serait bon, parce que les représentants sont aussi...
On ne peut pas confier une décision supranationale, par exemple, sur tous les traités. Quoi.
Oui, mais c'est le principe de subsidiarité. Moi, par exemple, il y a une proposition qui avait été proposée dans le traité du constitutionnel européen, qui avait été rejetée d'ailleurs par la France, enfin par les Françaises et les Français, le système de double pivot. C'est-à-dire, on a une majorité de 60% des pays et 60% de la population. Est-ce que ça vous paraîtrait, avec le recul finalement, est-ce que c'était pas une bonne proposition de feu Giscard d'Estaing? Et de la commission qui avait élaboré ce traité constitutionnel européen. Est-ce que ça serait pas déjà un début de solution?
je pense qu'aujourd'hui, cette proposition est devenue obsolète, le temps
on
est passé
pas
dessus.
Enfin,
aujourd'hui, on n'est plus, d'ailleurs, c'est pas l'intérêt premier de l'Union européenne, on a des sujets bien plus importants à gérer, et c'est surtout qu'il va falloir, là je le redis, c'est encore discuter, travailler ensemble, et on l'a vu sur le Covid, aujourd'hui tous les pays n'ont pas avancé dans le même sens, on a mis du temps à s'organiser pour les vaccins, parce qu'au début on avait des réticences, on a mis du temps sur le plan de relance, donc il va falloir déjà qu'on gère nos problèmes en interne avant de penser l'avenir.
Ok, donc c'est une autre question que nous espérons voir abordée par les futurs candidates et candidats à la présidentielle, ce qui va nous amener d'ailleurs à notre quatrième et dernier sujet de l'émission. Quelle proposition en 2022 pour l'Europe. Question que j'ai l'habitude de poser à mes invités. Pour les présidentielles, est-ce que vous avez un candidat que vous préférez ou que vous soutenez? Et in fine, quelle proposition vous plaise dans ce qu'il propose, notamment sur la question européenne? Monsieur Benoît, est-ce que vous avez un candidat vous qui vous plaît particulièrement ou vous soutenez même directement?
Je suis membre du Parti Socialiste. J'ai soutenu un candidat à la primaire interne du Parti Socialiste qui était Stéphane Le Foll. J'aurais aimé, pourquoi pas, voir un Bernard Cazeneuve émerger, mais ce n'est pas le cas. Après, il y a une démocratie au sein de notre parti qui a fait le choix d'Anne Hidalgo. Et donc, en tant que militant et pleinement intégré dans mon parti, je défendrai donc la candidature d'Anne Hidalgo. Je respecte le choix des militants aujourd'hui. Je ne suis pas un frondeur, comme on a pu le voir à l'époque.
Merci pour votre franchise, monsieur Benoît. Monsieur Fouéré, est-ce qu'il y a un candidat GRS ou vous, par choix personnel, que vous soutiendriez?
Je vais continuer sur la franchise parce que c'est une bonne lancée et je pense qu'on a un débat franc. Moi, j'aime bien la franchise. Hein. Je dis les choses telles qu'elles sont.
C'est ce qui manque parfois, des fois.
La gauche républicaine et socialiste.
Vous avez une position
au sein de laquelle je suis depuis décembre 2020. Il y a eu une consultation interne à partir de plusieurs candidats, majoritairement Arnaud Montebourg.
D'accord, donc mais bon, là, maintenant, vous êtes orphelin.
Sauf qu'Arnaud Montebourg n'est plus là.
Il a fait
moi, personnellement, ça rejoint aussi nos choix. Je n'avais pas choisi Arnaud Montebourg. J'avais choisi un candidat qui est toujours présent et qui s'appelle Fabien Roussel.
Fabien Roussel, d'accord, du Parti communiste français.
Ouais, sur je pense qu'il détonne un petit peu sur les questions de réappropriation aussi des destins à la fois des nations.
Alors justement,
autour des républiques, autour de la souveraineté, il y avait des points communs. Certains, pas tous, avec Arnaud Montebourg. Pas tous.
On va pas refaire le débat sur la présidentielle, on va avoir plein d'émissions pour le faire et je vous inviterai si ça vous semble.
Oui.
Mais en termes de propositions, donc, qu'est-ce que propose Madame Hidalgo pour l'Union Européenne ou le Parti Socialiste? Peut-être que Monsieur Le Foll aurait pu reprendre ses idées d'ailleurs, mais bon, pas de chance.
Je dirais plutôt que c'est Madame Hidalgo qui aurait pu reprendre des idées de Stéphane Le Foll. Et elle l'a fait notamment en matière écologique.
Mais c'est sur l'Union Européenne, précisément. Qu'est-ce que Madame Hidalgo, est-ce qu'il y a quelque chose de travaillé dans le programme du PS aujourd'hui?
Tout à fait, je pense
que
s'il y a bien une chose sur laquelle les socialistes n'ont pas à rougir, c'est leur proposition pour l'Union européenne.
On sait ce qu'on doit.
Nous avons toujours été pleinement investis dans l'Union européenne et je le dis encore aujourd'hui, nous sommes pleinement européens. Anne Hidalgo propose donc notamment un agenda social où il va falloir que l'Europe soit à la page en termes de d'harmonisation, pas que fiscale, l'harmonisation aussi sur les salaires. Aujourd'hui, on a trop grands écarts entre les pays sur les salaires. Des salaires avec un nivellement par le haut et pas par le bas comme on a l'habitude de le voir avec les politiques libérales. Un agenda social dans la lutte à l'égalité entre les hommes et les femmes, à la protection des travailleurs et des plateformes des travailleurs précaires et soutien aux transitions professionnelles, c'est très important aujourd'hui.
Il y a eu quand même
un règlement
de la commission qui est sorti justement pour les définir. Enfin,
tout à fait, tout à fait, et ça va dans le bon sens et il va falloir aller encore plus loin. Il ne faut pas en effet nier quand les choses sont faites. Il va falloir moderniser la gouvernance économique. J'ai reparlé aussi du pacte de stabilité des 3%.
C'est un sujet intéressant sur la gouvernance économique. Est-ce que concrètement, je donne la parole à Monsieur Fouret, vous inquiétez pas, tout à l'heure, dans deux minutes. Mais concrètement sur la gouvernance économique, vous avez parlé notamment de l'indépendance de la BCE tout à l'heure. Donc aujourd'hui, au Parti Socialiste, on est pour la remise en cause de l'indépendance de la BCE.
Non, on n'est pas pour la remise en cause de l'indépendance de la BCE. Mais en effet, il faudra que le Parlement ait le droit de débattre encore davantage sur les décisions qui peuvent être prises par la BCE. On ne va pas remettre le système système de la BCE en cause. Aujourd'hui d'ailleurs, on peut pas le nier, Christine Lagarde, depuis son arrivée à la BCE, a quand même permis des avancées, notamment sur le plan de relance. Alors, on n'avait jamais vu ça auparavant. Mais par contre, je considère qu'aujourd'hui, les débats que le Parlement ont n'ont pour l'instant pas l'utilité qu'ils devraient avoir, puisque la BCE, en effet, les contourne assez souvent.
Je rebondis juste, hein, c'est pas, mais parce que c'est intéressant de débattre entre nous. Je pense qu'il faut quand même limiter l'indépendance, je dis pas l'abolir, mais l'indépendance de la BCE, comme je disais tout à l'heure,
oui.
Qui doit être soumis, cette question de décision, de projet de la BCE comme de la Cour européenne de justice, qui doit être soumis à l'avis des parlements nationaux.
Mais est-ce que c'est le rôle d'un parlement de définir les missions d'une banque centrale?
À partir du moment où l'Europe s'est construite par des États-nations, je vois pas pourquoi on ferait fi des décisions ou des avis, en tout cas parlementaires. Mmh. Chez nous, l'Assemblée nationale, le Sénat. Enfin, l'Europe, c'est pas une entité à part, c'est pas un ovni. Dire l'Europe s'est construite à partir d'États, et c'est clair.
Donc sur la gouvernance économique, on a compris que vous aviez beaucoup de propositions très intéressantes d'ailleurs. Moi, j'ai une question que je pose souvent. Le fédéralisme, est-ce qu'on doit aller vers une Europe fédérale en termes de propositions? Est-ce qu'on n'est pas le cul entre deux chaises aujourd'hui, vous me pardonnez l'expression?
Non, je pense
pas. Mais on est dans un système qui n'est ni une confédération, ni une fédération. Est-ce que la solution, c'est pas d'aller vers plus de souverainisme ou revenir alors finalement à une souveraineté nationale totale?
Si la question c'est les États-Unis d'Europe, ma réponse est non. Il faut que l'Europe, elle arrive à trouver finalement son sens, son mode de fonctionnement, à écrire son histoire elle-même. On n'a pas à recopier ce qui se fait déjà ailleurs sur ces systèmes-là. D'ailleurs, aucun système n'est parfait. Juste pour revenir rapidement sur la gouvernance, parce que c'est vrai que la proposition de Monsieur Fleury est intéressante. Oui, il faut redonner de la légitimité aux parlements nationaux pour débattre sur des sujets européens. Ça, c'est une évidence et ça contribuera au sentiment d'appartenance. Mais en revanche, sur les questions économiques, pourquoi la BCE aussi, elle est indépendante aujourd'hui? Parce qu'on le voit bien. Un, la zone euro et l'Union européenne sont deux choses totalement différentes. Donc, on peut pas laisser 27 pays décider pour seulement quelques pays. Deux, si demain on laissait au Parlement le choix de la politique économique, on se retrouverait avec des blocages, on n'avancerait pas, ou alors on ferait tourner la planche à billets comme ça se fait dans certains pays. Donc, pour moi, le système de la BCE aujourd'hui n'est pas à remettre en cause. En revanche, pour justement qu'on ait plus ce souci sur les questions économiques, et ça c'est une proposition de la candidate Anne Hidalgo, c'est que l'Union européenne se dote d'un budget propre en mettant en place une harmonisation fiscale et surtout des ressources financières propres sur la question du numérique, de l'écologie et sur la taxation des multinationales.
Merci Monsieur Bénaud pour ces nombreuses propositions. Monsieur Fouaré, un dernier mot, une dernière proposition important. Du candidat Roussel, peut-être d'ailleurs. Il en a pas.
Nous, on a notre.
Si, c'est ça. Peut-être c'est à GRS, vous avez aussi votre propre proposition, bien sûr. Voilà. Bien sûr, excusez-moi, pardon.
On a 75 pages, 80 pages là-dessus.
Effectivement, pardon.
Moi, je me base sur notre programme. On a attendu, on l'a validé aux universités d'été, c'était en septembre.
Au mois d'août.
Donc, je voulais insister sur un point. Alors, je vois le féru de l'Europe, ça va faire tilt. Définir des limites aux quatre libertés.
Aux libertés, les libertés de circulation, des marchandises.
Des capitaux, des personnes. Je pense qu'à un moment donné,
on peut pas tout permettre. Oui.
Je veux dire, voilà. La liberté de circulation, s'il y a quelque chose à mettre en place aussi, on l'a dit, au niveau de l'Europe, c'est revoir la gouvernance, qu'elle soit un peu plus démocratique,
pas économique.
Oui, institutionnelle, vis-à-vis des parlements nationaux, mais aussi renforcer la coopération. C'est-à-dire moins d'intégration, mais plus de coopération avec
sur des sujets, les États veulent avancer ensemble.
Oui,
ils le font,
et puis
si
sur des sujets où on est utile, sur des sujets où des sous-régions un petit peu fragiles au niveau des conflits, etc., ou culturels, ou éducatifs, etc. Je pense qu'il faut renforcer.
Ok, merci Monsieur Fouéret pour cette dernière intervention. Nous allons nous quitter sur cette émission. Je remercie vraiment sincèrement Monsieur Bénaud et Monsieur Fouéré de leur venue, car
merci,
j'avoue, l'émission n'a pas été simple à monter en termes d'invités, pour des raisons techniques et obscures dont je ne détaillerai pas les raisons. On se retrouve à la rentrée des vacances de février, c'est-à-dire la semaine du 19, si je ne me trompe. On va se quitter avec un dernier morceau, Fight the Power de Public Enemy, pour faire plaisir à la personne qui va me suivre, Alexandre, pour l'émission La Carotte qui suit le débat. Bonne soirée, bonne semaine, et en espérant que vous avez apprécié l'émission. Ciao.
Merci à vous.
Merci.
Get our best trained, best educated, best equipped, best prepared troops refuse to fight. Matter of fact, it's safe to say that they would rather switch than fight.
Music in your heart, cause I know you got soul.
Hey.
Listen if you're missing, y'all. Swinging while I'm singing.
Hey.
Giving what you're getting. Knowing what I'm knowing. While the black band's sweating. In the rhythm I'm rolling. Gotta give us what we want. Gotta give us what we need.
Hey.
Our freedom of speech is freedom of death.
We got to fight the power.
I'm amped. Most of my heroes don't appear.